je donne la précision concernant le RAP, il s'agit du Rassemblement pour une approche des autismes humanistes et pluriels, qui regroupe un certain nombre d'associations de parents et qui accueille aussi des professionnels en tant qu'amis, on va dire, qui nous soutiennent. Peut-être juste avant de commencer, mon témoignage que j'ai appelé « Dans les pas de Louis », Louis étant un de mes deux fils, celui qui est dit autiste, le témoignage de Christine me fait penser à la fascination de Louis pour les trains. Et ce que j'en ai compris, il s'agit du RER qui passe à côté de chez moi, ce qui fascine Louis, c'est le moment où les rames se mettent en route, en fait le moment où elles s'arrêtent et puis le moment où elles se mettent en route. Et quand elles s'arrêtent, les wagons sont discontinus et on peut les identifier. Et puis dès que ça se met en route, eh bien il y a une forme de continuité qui se met en route. Et comme Louis m'a semblé dès l'origine vivre dans une forme de présent permanent, donc qui était une forme de succession de discontinuité. Cette solution qu'il avait trouvée pour inventer le temps, hein, pour inventer le mouvement, m'a semblé très intéressante. Alors, dans les pas de Louis, que peut un parent observer au plus près de son enfant et qui l'aide à accéder au monde intrigant de l'autisme, si étrange, si déroutant? Et pourtant, ce monde va nous devenir familier au point que nous pourrons deviner, ressentir presque physiquement les pensées, l'éprouver de notre enfant, qui pourtant, dans le cas de Louis, ne parle pas. Alors quand, au détour d'une expérience ou d'une indication de l'enfant, on en arrive à se remémorer un éprouvé de sa propre enfance, on a l'impression qu'on reçoit un cadeau inestimable. Alors, il est vrai qu'ayant deux enfants, cela m'a aussi aidé à être à l'écoute de ces cadeaux-là, dans le sens où si je n'en avais eu qu'un et que je m'étais retrouvée complètement démunie, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il y a donc la nécessité d'un niveau minimal de confiance en soi, sans lequel on dérape définitivement. Hein. Donc je le dis, c'est important quand même de l'avoir en tête, ça. C'est tout particulièrement important, à mon avis, pour les jeunes parents qui n'ont pas de référence et qui vont très très vite se sentir totalement dépossédés de toute compétence. Voilà. Alors, dans mon cas, je me suis mise très vite à écrire. Je voulais vous parler peut-être de ça, ça me semble très important. Et ce que j'écrivais, c'était des petites vignettes, des textes où je me mettais dans les pas de Louis. Et en fait, ça faisait émerger une forme de poésie qui a exercé un effet très puissant sur moi. Et cela formait un véritable contrepoint au quotidien qui est extrêmement fatigant. Parce que l'éprouvé majeur, c'est quand même l'éprouvé d'une fatigue sans nom, quoi. Et presque sans rémission. Donc la fonction de tout ce qu'on va pouvoir trouver est d'autant plus importante. Alors il y avait aussi dans l'après-coup les effets que produisaient ces écrits, qui étaient que cet effort de formulation permettait de relire ou de relier des éléments disjoints. Et en fait, ça mettait au jour un cheminement. C'est dans ce sens que Louis était l'inventeur d'un chemin. Et ce chemin, c'était pas un programme élaboré d'avance. Hein, bon. Il me permettait aussi de me renvoyer à des lectures, soit, alors évidemment, donc, ça va passionner les témoignages d'autistes, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits de cliniciens. C'est-à-dire tout ce que je pouvais, tout ce que je pouvais avaler qui témoigne d'une clinique, c'était, bon, depuis Joué jusqu'à voilà, les Lefort, Geneviève Hague, Marie-Christine Nasnik, en fait, tout ce qui pouvait me tomber sous la main. Même si, bon. Alors, c'est pour ça que j'ai reçu comme une violence insupportable l'arrivée du discours de normalisation rééducative qui est arrivé, enfin, pour moi, aux alentours de l'année 2012, des grandes causes d'autisme. Parce que finalement, ça m'a, en tout cas, dans un premier temps, arraché à ce que j'étais en train de faire. Et que j'étais en train de, qu'on inventait comme on pouvait, d'ailleurs pas tout seul, il y avait aussi les équipes de la crèche, les gens qu'on commençait à rencontrer, la question du diagnostic qui commençait à se poser, l'entrée en hôpital de jour, comment ça allait se passer, etc. Des rencontres parfois bonnes, parfois moins bonnes, mais voilà, c'était notre chemin. Donc, fallait-il que ce que je faisais soit scientifiquement validé, je me suis sentie extrêmement agressée par cette question. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on agit sans référent théorique, bien au contraire. Mais pour moi, il s'agit, enfin, je préférais travailler dans l'après-coup que dans le programme imposé a priori. Voilà, donc ça me paraît important. Bon. Alors, depuis, l'ambition éducative, elle reprend ses droits, hein, c'est normal. Tout enfant, on n'y échappe pas. Et je dois dire que la création de la main à l'oreille nous a permis de maintenir vivante cette joie du travail, hein, et de la retrouver après un premier moment difficile, compliqué. Voilà. Alors, je voulais vous présenter quelques petits textes que j'ai écrits à l'époque pour voir ce que ça donnait et comment ça s'organise finalement. Donc les premiers, c'est les premières sensations massives de sensorialité exacerbée dont témoignait Louis. Alors il faut savoir qu'il a eu un passage à l'hôpital difficile, qu'il a été nourri par sonde, radiographié, enfin bon, je pense que l'expérience qu'il a vécue comme tout petit nourrisson, je pense que même des adultes ont du mal à la traverser. Donc, j'imagine qu'il a émergé dans un monde très, très, très violent, très éprouvant. Et donc, il a commencé à trouver des moyens pour filtrer cette violence. Alors, notamment, il y avait cette façon qu'il avait de mettre sa main à l'oreille pour filtrer les sons. Mais on voyait bien que c'était pas pour se boucher les oreilles, c'était plus intéressant que ça, quoi. Hein, c'était apparemment, donc le filtre se faisait pas naturellement. Il avait trouvé un moyen de faire une forme de et donc soit il écoutait, soit il s'écoutait lui-même. Enfin bon, on voit que les chanteurs quand ils chantent, ils se mettent la main à l'oreille, ça vient. Ça veut bien dire quelque chose. Alors, il y avait aussi la façon qu'il avait de se laisser tomber en arrière, mais on sentait qu'il avait un grand bonheur, quoi, enfin, c'est, ça lui, une forme de jouissance. Et tout ça m'amenait à me rendre compte, enfin, qu'il a dû éprouver des sensations très concomitantes de douleur et d'extase, enfin, où les deux choses ne se différencient pas. Les lacaniens diraient jouissance. Enfin, hein. Donc il y a vraiment un état de non-différenciation qui devait être très très prévalent. Alors l'autre élément, c'est qu'il a commencé, enfin, c'est aussi que j'ai découvert qu'il aimait les éléments enveloppants, La mer, il a tout de suite aimé la mer, rentrer dans la mer, la serviette de la sortie de bain, mais il aimait aussi que je lui caresse le dos, que je lui tienne le dos. Geneviève ne sera pas surprise hein, de ces indications. Je ne les connaissais pas, je connaissais pas ses écrits, mais après, quand je l'ai lu, j'ai dit oui, évidemment. Oui. Mais alors, par exemple, je me souviens aussi qu'il aimait fermer les yeux pour essayer de s'y retrouver. Et alors, moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais gamine. J'aimais fermer les yeux ou alors faire comme si je ne voyais rien et retrouver la disposition topographique autour de moi. Donc, j'ai commencé à repérer des choses qui me parlaient, qui me disaient quelque chose. Alors, à partir de tous ces éléments hétéroclites, j'ai commencé à dresser une sorte de premier état des choses, avec des éléments primaires. Comme si il avait son premier, sa première typologie, sa première classification, on va dire. Alors, il y avait les choses molles qui enveloppent, le linge, les draps, l'eau, le souffle dans le cou, il y avait des choses plus dures, comme le métal, ou alors il y avait, l'appui dans le dos, ou alors la carrosserie de la voiture, le siège bâclé dans la voiture. Il faut dire qu'il a été mis en proclive quand il était nourrisson, donc il était sur un matelas comme ça, sanglé. Donc il a toujours aimé être sanglé. Il y avait aussi toutes les formes tournantes, et puis il y avait les formes aspirantes. Et à partir de ça, à quoi ça peut servir de repérer tout ça, hein, finalement ? En fait, je me suis rendu compte que dans un deuxième temps, il y a eu une combinatoire de ces différentes formes de départ dans des petites séquences, dans des petites scénettes que j'ai... le fait de les avoir écrits m'a permis quand même de les relever, quoi. Par exemple, au début, on partait en promenade et il restait collé à la carrosserie de la voiture. Il était hors de question de bouger. Et puis, on est allé passer nos vacances à Toulon et on les a passées de façon répétitive à Toulon. Donc, on prenait la voiture, on se mettait au parking et puis il y avait à traverser une sorte de parc pour arriver à la mer, à la plage, le sable, la mer. Donc, voilà. Et au début, il fait la même chose, il s'accroche... Puis après, il s'est mis à s'accrocher à un lampadaire. Et il tenait le lampadaire. Et puis on l'a un peu forcé quand même. On lui prend la main, on le tire un peu. Et puis il arrive, il débouche sur la plage et il voit la mer. Et là, ça a été l'extase. Il a tout de suite aimé. Et du coup, ce qui fait que le lendemain, en fait, je me suis rendu compte que la traversée du parc avait remplacé le lampadaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une connexion horizontale qui avait remplacé une connexion verticale. Donc les traits, je trouve ça intéressant. Hein. Mais alors c'est vrai que la grille de lecture que j'ai eue, qui m'est venue, c'était une grille de lecture topographique. C'est-à-dire que je repérais qu'il y avait des éléments qui tenaient, qui permettaient de cadrer tout ça. Et qu'en les faisant bouger, il y avait moyen de les transformer, quoi, enfin, d'échanger l'un pour l'autre. Donc, en fait, petit à petit, ces espaces de connexion se sont mis à faire partie du plaisir, à permettre l'apprivoisement. Donc, quand on savait qu'on allait d'un point à un autre, le chemin pouvait devenir un connecteur. Donc, ça permet d'élargir l'espace tout de même, hein, d'élargir les possibilités. Et ça marchait bien, parce que quand il rentre dans une pièce, il regarde tous les points de jonction, il regarde où il est, il regarde le chemin qui va de la voiture à où on est allé, il s'est retrouvé son chemin. Ce qui fait que l'articulation, vous voyez, entre l'élément de la voiture, le siège bâclé, le fait que les roues de la voiture qui tournent, cet élément de permanence, plus combiné aux éléments qu'on arrive à faire transformer, faisait que on arrivait à construire une forme de de... Je sais pas si c'est une grammaire ou... Oui, parce qu'il n'y a pas de vocabulaire, hein. C'est de la grammaire. Bon, voilà. Et un autre moment, c'est que j'ai appelé la mémoire des jambes. C'est un moment où je me suis mise à photographier ces jambes. Donc on était dans un parc zoologique et puis il ne s'intéressait pas aux animaux. Donc il a commencé à aller et venir dans des petits sentiers, d'aller avec des herbes un peu partout et tout. Et donc il a commencé à faire refaire et refaire le mouvement. Et au bout d'un moment, après avoir photographié ça, je l'ai revu plus tard. Et surtout... j'ai capturé quelque chose qui a duré quelques secondes. C'est, il s'est mis sur la tête, il y avait un grand lange à l'époque, il s'est mis sur la tête, il s'est entièrement caché la tête, et ensuite il a enlevé, et puis il a regardé, et il s'est rendu compte qu'en fait, il connaissait le trajet par cœur. Et le fait d'avoir capturé ça par la photographie me permettait de me rassurer qu'effectivement j'avais bien vu ça. Et donc j'ai pu remarquer cette forme de cette capacité qu'il a à constituer des cartes mentales d'une très grande précision. Et ça, je peux vous dire que le chemin, il le connaît. Enfin, dire, si moi j'oublie où était la voiture, lui, il ne l'a pas oublié. Bon, voilà, je voudrais juste pour terminer, vous parler de Georges. Parce que Georges, c'est son frère jumeau. Et comme je l'ai dit, Georges a joué un très grand rôle parce que c'est il n'était pas constitué pareil. Il me montrait des choses très différentes. C'est parfois très difficile parce que gérer les deux en même temps, c'est presque. Et en même temps, Georges, comment il fait? On parle des parents, mais je pense que c'est très important de parler de l'ensemble de la fratrie. Alors je vais vous raconter deux petits écrits que j'ai fait aussi. Voilà. Alors, on est dans la voiture, toujours en chemin vers cette fameuse plage où nous avons nos habitudes, et Georges nous raconte son dernier rêve. Pendant ce temps-là, Louis rêvait qu'il mangeait des carottes. Tu as rêvé que Louis rêvait. Non, c'est le rêve de Louis. Rectifie Georges avec aplomb. Alors, Georges y raconte des épisodes rocambolesques avec une fluidité remarquable, donc il a énormément de vocabulaire. Alors du coup, j'ai fini par comprendre, en fait, un peu plus tard, qu'en fait, le mangeur de carottes qui rêve, c'est le lapin du manège enchanté. Qui s'écroule de sommeil régulièrement à la fin de chaque épisode. Donc il est vrai que Louis tombe en bloc dans le sommeil. Donc c'est comme le lapin du manège enchanté. Mais alors il faut aussi savoir que les carottes sont importantes pour Georges. D'abord parce qu'il adore les carottes, surtout pas. Donc nous allons marcher. Et il enfourne son petit vélo, on est dans la file, et il y a une petite fille qui arrive derrière et qui dit à son papa « J'aime pas être les derniers ». Alors, comme je la trouve très spirituelle, je lui réponds les derniers finiront par être les premiers ». Alors, une dame qui arrive juste après, elle dit « Ah oui, mais le plus tard possible ». Alors, le papa dit « Bah, tu vois, nous ne sommes plus les derniers ». Pendant ce temps-là, Georges s'adresse à la petite fille et lui dit « Tu aimes les carottes ?» Oui, répond-elle, mais je préfère les olives. Alors, moi, dit Georges, je les aime râpées. Moi, dit la petite fille, je les croque entières comme les lapins. Donc, je suis à cheval, regarde sur mon vélo et voilà mon Georges se balade. Alors, bon... Je voulais vous raconter ça parce que je pense que c'est important, finalement, pour chacun de nos enfants, hein, ce petit travail. Et puis que je trouve que Georges a une façon de traiter tous les problèmes, de grandir, qui est merveilleuse, et une forme de savoir-faire avec son frère et avec la situation qui est tout à fait remarquable.